CFM Villefranche, le mag.
Vous venez de nous rejoindre à la suite de cette édition du magazine d'actualité avec en studio, comme annoncé, Jean-Claude Issaly. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour David.
Jean-Claude Issaly, administrateur bénévole, naturaliste, bénévole et administrateur pour la Ligue pour la protection des oiseaux. Et puis depuis quelques mois maintenant, animateur radio sur l'antenne de CFM. D'ailleurs, on retrouvera une émission tout à l'heure à partir de 12h35. Et l'émission s'appelle « À tire d'aile ». On retrouve l'ensemble des podcasts sur le site cfmradio.fr. On s'autorise des points tout au long de l'année dans le magazine d'actualité pour parler de l'actualité de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, délégation territoriale Aveyron. Et là, bah, le fait d'actualité, c'est la sortie de l'agenda des rendez-vous nature de la LPO Occitanie. En 2022, vous nous invitiez à nous échapper, à partager également. Et pour ce début d'année, vous nous proposez de nous engager encore un petit peu plus pour la biodiversité à l'occasion donc de l'apparition de cet agenda des rendez-vous nature. Que nous réserve l'agenda pour ce premier semestre, une nouvelle fois riche en termes d'animation, hein.
Oui, effectivement, ce programme d'animation du premier semestre 2023 est relativement riche et très, très large, puisqu'on s'intéresse bien sûr aux oiseaux. La LPO, on pense toujours aux oiseaux, mais en fait, c'est les oiseaux et la biodiversité et les milieux dans lesquels ils vivent. Donc, il y a des animations qui concernent les oiseaux, mais il y a des animations qui concernent les amphibiens, les reptiles, les mammifères. On va suivre, comme on le fait un peu tous les ans aussi, les chiroptères, donc les chauves-souris. Voilà, mais on travaille aussi sur un atlas des papillons de l'Aveyron. Et du coup, il y a aussi quelques animations qui touchent aux insectes et particulièrement aux papillons sur ce premier semestre.
S'engager, c'est ce qu'on peut lire sur l'agenda de ce premier semestre des rendez-vous nature. S'engager, ça résonne un peu comme une urgence, comme une nécessité.
Alors s'engager, effectivement, pour nous, c'est fondamental. Mais bon, à la LPO, on aime partager nos connaissances et notre intérêt pour la nature. Mais donc, s'il n'y a pas ce partage, si les gens ne s'approprient pas un petit peu leur nature, leur environnement, ben ils auront quand même du mal à s'engager. Mais effectivement, c'est un pas de plus. Et on voit qu'avec le Covid, il y a pas mal de gens qui ont un peu redécouvert en quelque sorte la nature qui existait autour de chez eux. Et c'est vrai que si on y prête attention, on peut voir, malgré toutes les pertes qu'on a eues sur les 10, 15, 20, 30 dernières années, on peut voir encore pas mal de choses dans notre département autour de nos habitations. Donc effectivement, voilà, si ces animations sur le terrain peuvent faire naître, un intérêt un petit peu grandissant et si les gens peuvent s'engager à leur échelle, bien entendu, hein, il faut que chacun y trouve son plaisir, hein, mais on peut faire quand même pas mal de choses. Alors, des petites actions autour de chez soi pour soi, mais peut-être aussi avec ses voisins, et puis on peut faire peut-être un petit peu plus en s'engageant dans le groupe des bénévoles à la LPO par exemple.
LPO Occitanie qui en un an a gagné 1000 adhérents, c'est un signe fort aussi ça d'engagement.
Voilà, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec le Covid, donc on a une recrudescence des adhérents. Et c'est vrai qu'en Aveyron on a repassé à nouveau le seuil des 600 adhérents, voilà, donc c'est vrai que c'est encourageant.
La porte d'entrée de l'engagement, c'est l'observation, on peut dire ça, c'est simple, c'est ludique.
Oui, l'observation, c'est vrai que quand on connaît les espèces et qu'on voit comment elles vivent et qu'on connaît un petit peu leurs mœurs, mais on comprend mieux ce qu'on peut faire pour les aider. Et donc les aider, c'est maintenir des milieux plus préservés, c'est avoir des actions qui ont des impacts plus faibles. Voilà, donc... S'engager, ça peut être aussi créer son propre refuge.
Oui.
Parce que donc créer un refuge, c'est un petit peu s'engager sur une charte, c'est-à-dire c'est un engagement moral. Il n'y a pas de contrôle derrière. Mais on s'engage à ce que son terrain, aussi petit soit-il, soit le plus accueillant possible pour la biodiversité.
Alors ça s'adresse aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités, voilà. Aux établissements scolaires également. Ça peut être un bel espace pédagogique aussi.
Effectivement, les refuges ont plusieurs envergures, plusieurs facettes, et ils sont, enfin là, notre animateur pourrait en parler plus précisément, mais ils sont un petit peu adaptés aux structures.
D'ailleurs, dans ce premier semestre et dans cet agenda des rendez-vous nature de la LPO Occitanie, une journée est consacrée, une journée refuge LPO. L'année dernière, je crois que c'était à Anglars-Saint-Félix, une personne avait mis à disposition son espace aménagé. Et là, je crois que ça va se passer à l'EHPAD Sainte-Claire, donc à Villefranche-de-Rouergue.
Oui, d'habitude, effectivement, tout le temps, on a des journées refuges tous les ans. Et mettre en place cette animation, on fait appel à des gens qui ont un refuge et qui veulent bien accueillir pour montrer un petit peu ce qu'ils ont chez eux, comment ça s'est réalisé, qu'est-ce qu'ils y voient, qu'est-ce qu'ils font comme entretien, qu'est-ce que ça leur prend comme temps, etc. quoi. Voilà. Donc cette année, on est accueilli à l'EHPAD de Sainte-Claire, qui est vraiment un espace avec un parc superbe, magnifique. Ils ont commencé déjà à mettre en place quelques actions et ils seront très heureux de nous les présenter. Et ça peut être intéressant parce que ça donne plein d'idées sur ce qu'on peut faire chez soi ou sur les terrains qu'on a à disposition.
Et puis il y aura un atelier de fabrication aussi ce jour-là, sensiblement.
Alors, et effectivement, on montrera un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, c'est vrai que dès qu'on pense les actions qu'on peut conduire, on pense à mettre en place des nichoirs. Donc, c'est vrai que c'est une bonne chose parce que tous les arbres qui sont à disposition n'ont pas des trous, hein, pour les oiseaux cavernicoles notamment. Et donc, les nichoirs peuvent être intéressants. Et c'est assez facile à faire. Et puis, si on les dispose relativement bien, on peut les avoir pas très loin d'une fenêtre, d'une véranda. Et donc, on peut suivre un petit peu l'activité des oiseaux.
Il y a une période pour les nichoirs, on en voit beaucoup en hiver, en tout cas dans les boutiques et les magasins. Là, vous proposez de les fabriquer. Hein.
Oui.
D'ailleurs, on va en parler, il y a une animation programmée le 4 mars. Mais il y a une période pour les nichoirs, on se dit que l'hiver, bah oui, c'est propice à sortir.
Oui, on peut installer des nichoirs toute l'année, mais c'est vrai que si on peut les installer à l'automne ou avant l'hiver, ils peuvent accueillir déjà pendant l'hiver des oiseaux qui vont s'y réfugier, notamment les nichoirs pour les cavernicoles, comme les mésanges bleus, charbonnières, nonnettes, etc. En fait, pour lutter contre le froid pendant l'hiver, elles rentrent dans un trou d'arbre ou dans un nichoir. Pour ça aussi qu'on recommande d'avoir des nichoirs avec des parois quand même assez épaisses, parce que ça joue le rôle d'isolant. Mm-hmm. Et on a un adhérent qui a observé jusqu'à 13 mésanges qui rentraient dans un nichoir le soir pendant l'hiver et qui venaient tous les soirs dormir dans ce nichoir-là. Voilà, donc... Elle rentre dans le nichoir, il n'y a que le petit trou qui fait 28 mm ou 30 mm de diamètre.
Ah oui, c'est précis.
Oui, c'est précis, parce que si on veut faire nicher, par exemple, les mésanges bleus, on restreint à 28. Si on veut faire nicher les mésanges charbonnières, on passe à 30 ou à 32. Mais bon, au-delà de 32, il y a d'autres oiseaux qui peuvent venir, comme les moineaux notamment. Donc
d'accord.
Voilà, il faut...
Éviter aussi l'intrusion, peut-être.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Mmh. Et puis si on fait trop gros, ça peut être des étourneaux. Donc c'est des oiseaux qui ne sont pas toujours les bienvenus. Enfin, ce n'est pas ceux qu'on souhaite voir dans les nichoirs tout le temps. Quoi.
Là, vous nous proposez une animation. Le 4 mars, un atelier nichoir. Vous nous proposez de fabriquer des nichoirs. Et je crois que vous allez participer peut-être à cette animation, Jean-Claude Isselli. Je sais que de par le passé, vous étiez un peu à la manœuvre.
Oui, j'ai effectivement un petit peu d'habitude. Il y a plus de 30 ans ou 40 ans que je fais des nichoirs et que j'en pose et que j'observe. Mais effectivement, avec Daniel Escande, notre adhérent et bénévole et administrateur aussi, on animera cette journée. Donc on pourra fournir du bois à ceux qui n'en ont pas, mais les gens peuvent en amener. Et on peut aussi avoir quelques nichoirs en kit pour ceux qui se sentent un petit peu moins à l'aise et qui veulent quand même le monter et mettre un peu la main à la pâte. Ouais. Voilà, donc c'est pareil, c'est un petit peu à plusieurs dimensions, mais on peut repartir éventuellement avec un nichoir, ou deux, ou trois, enfin là c'est à voir.
Et ça se passe sur la commune de Vaillour, la proximité de Villefranche-de-Rouergue, le samedi 4 mars. Un site internet, hein, on tape aveyron.lpo.fr, on peut charger l'agenda en version numérique. Sinon, voilà, des catalogues sont à disposition là, un petit peu partout sur le territoire. Il y a des grands classiques dans cet agenda, dans ces rendez-vous nature. Je pense peut-être à cette animation que vous animez, il est question de vous encore une fois, à Ambérac, les oiseaux de la Vallée du Lot. Ça, c'est une animation que vous proposez le 8 avril. Voilà, c'est des animations récurrentes tous les ans. Certaines animations sont identiques, mais vous changez de territoire. Il y a ça
oui,
aussi.
Ah oui, c'est vrai. Ça, on ne peut pas tout réinventer, Mais voilà, après, avec l'observation du vivant, bon, hormis les plantes qui sont vraiment au même endroit, on a des stations bien précises, ok. Mais après, que ce soit pour les insectes, les papillons, les mammifères, les reptiles, etc., on peut en voir un petit peu partout, avec des lieux qui sont plus ou moins favorables. Mais c'est vrai que sur la vallée du Lot, ben, de toute façon, on cherche à avoir des répartitions un petit peu, qu'il y ait des animations un petit peu aux quatre coins du département.
Et au-delà d'ailleurs, puisque l'agenda concerne des animations aussi en Lozère, hein,
oui,
Aveyron et Lozère.
Oui, oui, alors la Lozère, la délégation territoriale LPO Lozère a démarré il n'y a pas très longtemps. On a toujours été partenaire par le passé aussi, avec les adhérents de la LPO Lozère. Et donc, oui, on a dans notre programme des sorties qui concernent aussi la Lozère. Mais j'en profite pour rappeler que toutes les LPO territoriales, donc tous les départements qui ont une LPO, comme le Tarn, le Lot, mais bien sûr aussi l'Hérault, l'Aude, etc., ont un programme d'animation, de sortie, que l'on peut aussi télécharger sur les sites LPO Occitanie, par contre. Voilà.
La plupart du temps, les animations proposées se déroulent sur une journée, une demi-après-midi. Parfois, faut appeler, c'est mieux pour des raisons logistiques. Parfois, c'est un petit pique-nique. Et parfois, c'est un voyage un petit peu plus étoffé. Je pense à cette proposition de Jean-Louis Kans, un week-end d'avril, les 22 et 23 avril, direction Canet-en-Roussillon. Hein.
Dans nos programmes, une fois par semestre, normalement, on a une sortie sur deux jours à l'extérieur. Donc, on a été en Camargue, on a été dans les marais des Barthes de l'Adour, on a été au bassin d'Arcachon, on a été en Brenne, on a été on a été sur les lacs du Cantal, enfin. Donc, voilà. Et on a déjà été en mer plusieurs fois. Côté Camargue, on a eu fait aussi ce type d'action. On l'avait déjà fait aussi sur les Pyrénées orientales. Et donc là, donc le samedi, ce sera des observations sur les marais un peu côtiers. Donc pour tous les oiseaux, type limicole, échassier, mais aussi type poule d'eau, foulque, voilà. Et goéla, mouette et autres. Et puis on a une sortie le dimanche, donc on partira en bateau. Avec un bateau assez costaud quand même, mais bon, ça peut bouger quand même un petit peu. Et on va un petit peu au large, au-dessus des fosses du Cap Béar notamment. Et là, c'est vrai qu'on peut observer des choses assez, assez surprenantes. Les gens ne pensent pas qu'en Méditerranée, on puisse voir des cachalots, des baleines, des fois quelques requins. Or, c'est pas des grands requins, mais bon, le grand requin blanc, par exemple, peut être vu en Méditerranée. Quoi. Donc, voilà. Donc on verra peut-être pas ça, mais on peut voir des différentes sortes de dauphins, notamment des globicéphales aussi, qui ont sont des dauphins assez sombres, très noirs, qui ont une grosse tête, un gros ballon sur la tête en quelque sorte.
Ah mais oui, c'est, oui.
Ouais, mmh. Voilà, donc c'est assez sympa. Bon, alors je dis pas qu'on va les voir, hein, mais c'est tout à fait possible. Et puis côté oiseaux, on peut voir les oiseaux pélagiques, c'est-à-dire les oiseaux qui normalement vivent au large et qui sont très difficiles à observer depuis la côte. Et bon, des fois sur le Cap Cerbère, des fois on arrive à voir un petit peu des puffins ou des pétrels. Mais là, l'idéal, c'est de partir quelques kilomètres au large. Et surtout si le bateau lâche un petit peu quelques morceaux de poisson, des petits poissons passés, des trucs comme ça. Et là, au bout d'un moment, on a quantité d'oiseaux qui volent autour du bateau et c'est vraiment magnifique.
Évidemment, une sortie limitée en place, 18 personnes. Donc voilà, il faut se positionner assez vite sur ce
week-end. Il faut se positionner assez vite, mais c'est assez particulier parce que ce bateau est relativement gros. Donc nous, on a réservé 18 places parce qu'on a deux minibus de 9 places. Voilà. Mais les gens peuvent s'inscrire aussi directement auprès du... Enfin, il faut qu'ils appellent Jean-Louis Kans, ils auront les coordonnées. Et si les gens veulent partir là-bas en voiture, passer le week-end, ils peuvent se joindre au groupe... parce que je crois qu'il y a plus de 60 places disponibles en tout. Mais voilà, nous, on en a réservé 18, parce qu'on part avec deux minibus de 9 places.
Agir pour la biodiversité, s'engager, c'est aussi adhérer à la LPO. Un mot sur l'adhésion, une adhésion qui peut être individuelle ou familiale, ou de soutien. Il y a plusieurs possibilités. Hein.
Oui, on essaie de s'adapter un petit peu à tous les publics. Mais disons que l'adhésion individuelle, c'est 30 euros par an. Donc elle permet d'avoir un certain nombre d'informations. Dès qu'on adhère à la LPO nationale et on est rattaché à la délégation territoriale de son département et à la délégation régionale de sa région. Donc, si on adhère à la LPO qu'on habite l'Aveyron, ben on recevra les publications de l'Aveyron, on recevra les publications, le LPO Info d'Occitanie et on recevra le LPO Info national. Voilà. Après, pour les passionnés, on peut aussi trouver, en plus, un magazine qui paraît tous les trimestres, qui s'appelle l'Oiseau Magazine, et qui a divers sujets sur les oiseaux et sur la biodiversité. Une revue vraiment de très grande qualité. Et dans les 10 dernières pages, il y a pas mal d'actions qui sont présentées par les délégations régionales et territoriales. Donc ça permet aussi de voir un petit peu la diversité des actions qui sont menées sur le territoire national.
Jean-Claude Issali, administrateur pour la Ligue pour la protection des oiseaux, délégation territoriale Aveyron, bénévole, naturaliste, animateur radio. D'ailleurs, je vais vous laisser la place puisqu'après le journal, ça va être un petit peu le prolongement de cette intervention. Une émission à tire-d'aile consacrée donc à l'agenda des rendez-vous nature de la LPO Occitanie. Vous allez revenir sur cet agenda. Merci Jean-Claude.
Avec plaisir.
À tout de suite. Et merci.
À tout de suite.
CFM Villefranche. Le MAG.